Et il est temps de s'intéresser à une artiste hors du commun, c'est Juliette, une parolière française qui a un talent magistral pour l'écriture, mais aussi sa façon de mettre les choses en musique. Elle vient au Corbac, elle sera là donc demain à la salle à partir de 22h. Le truc de Juliette, c'est de vraiment créer une ambiance avec le public, de créer une sorte d'atmosphère. Et du coup, les petits festivals comme le Corbac lui vont à merveille. On lui a quand même demandé si elle avait une limite pour la taille des salles, pour que sa magie continue d'opérer. Voici sa réponse.
Je ne sais pas, parce que ça ne m'est pas arrivé de faire plus grand que 2000 personnes environ. Et vous avez des salles, par exemple, comme l'Olympia à Paris, où on est à 2000 et où ça reste malgré tout une salle de théâtre, quoi, c'est-à-dire avec une proximité avec le public quand même correcte. Donc je ne saurais pas vous dire si Bercy ou un Zénith, tout ça, ça me conviendrait, mais je ne crois pas, parce que malgré tout, moi, en tant que public, par exemple, si je vais voir un artiste dans une salle de cet acabit, ça m'intéresse moyen d'être obligé de regarder un écran pour le voir, quoi.
Alors, vous parlez beaucoup avec le public. J'ai l'impression que, quelque part, vous connaissez un petit peu. Votre public, vous le décririez comment ?
Ben, écoutez, c'est un peu varié. C'est pas un public d'un seul tenant. J'ai la chance d'avoir d'abord déjà commencé à avoir une longue carrière. Donc j'ai commencé à avoir de l'intergénérationnel, c'est-à-dire que j'ai des petits-enfants qui viennent maintenant, c'est-à-dire les petits-enfants des gens qui venaient me voir à mes débuts. Donc je commence à avoir trois générations de gens de public, des gens qui ont mon âge, des gens qui ont l'âge d'avoir des enfants si j'en avais, et puis des gens qui ont l'âge d'être mes petits-enfants, si j'en avais. Voilà, ça commence à être... ça, c'est sympa, hein. Je me retrouve avec des jeunes adultes qui me disent « Moi, je vous connais depuis que je suis tout petit, quoi. »
Donc, c'est un public familial, en fait.
Ouais, c'est assez... ça se transmet. Vous savez, il y a des gens comme ça, dans l'art, dans la chanson, qu'on transmet à ses enfants. Et du coup, ils ont grandi en m'écoutant. Alors, ils viennent me voir quand ils sont grands et qu'ils ont à leur tour des enfants. C'est mignon.
Donc, on peut dire que vous avez une sorte de public quand même sur le long terme. J'ai l'impression que Juliette, c'est pas épisodique dans la vie de quelqu'un.
Bah, a priori, non. Bah oui. Après, il y a des gens pour qui ça peut être épisodique, j'en sais rien. Mais toujours est-il que, ouais, quand même, j'ai une large frange du public habitué, un peu fan, etc., qui est intergénérationnel, c'est clair.
Alors, votre dernier album, Juliette, chanson d'où l'œil se pose. Alors, c'est peut-être un peu candide, mais il se pose où et d'où il vient ?
Eh ben alors écoutez, ben il s'est posé un peu là où il pouvait, c'est-à-dire que le titre, ça m'est venu au moment où on était confinés dans tous les sens, tous les trois mois. Donc effectivement, les sources d'inspiration, ben, elles se réduisaient un petit peu puisqu'on ne pouvait plus sortir. Et l'idée de dire après tout, là où l'œil se pose, il y a toujours quelque chose à voir, quel que soit l'endroit où il se pose, il y a toujours quelque chose à voir et toujours peut-être une idée à en sortir pour parler aussi d'autre chose. On ne va pas juste décrire le mur. Qu'on regarde, il va nous évoquer des choses, ce mur. Donc, c'était un peu ça l'idée. C'était l'idée de dire, quand l'univers se rétrécit, l'œil continue à pouvoir voir des choses qui peuvent être intéressantes si on a un peu d'imagination.
D'ailleurs, sur la pochette, on vous voit votre œil qui regarde depuis une fenêtre, donc un espace qui peut être assez clos, mais qui peut regarder sur la rue, qui peut avoir un champ large.
Ben, c'est ça, oui. Et puis, même sur l'intérieur d'une maison.
Là où l'œil se pose, c'est donc le dernier album de Juliette, un album qu'elle vous chantera lors de son passage au Corbac Festival. On vous rappelle que ce sera demain à 22h dans la grande salle. Et maintenant, on va s'intéresser à une chanson en particulier, une chanson qui, moi, m'a touché, qui s'appelle « Le Seigneur des Mouches », qui parle de ses enfants qui harcèlent les autres enfants à l'école ou à l'adolescence. On sait qu'en France, c'est devenu un vrai problème de société, notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux. Et j'en ai profité pour demander à Juliette si les seigneurs des mouches disparaissent vraiment quand on arrive à l'âge adulte, ou est-ce qu'ils sont toujours là ?
Il y avait un mouvement à une époque, je ne sais pas s'il existe toujours, qui était plutôt d'ailleurs aux États-Unis, qui s'appelait « It gets better », « Ça ira mieux ». Et effectivement, il y a un moment où, quand on est enfant, ça semble... indémerdable, quoi. C'est vraiment c'est super difficile et en même temps patience, ça ira mieux. Il y a un moment, je crois vraiment que ça cesse. Après, si ça cesse pas à l'âge adulte, c'est que sans doute on est en faiblesse telle que on va ramasser tous les prédateurs de la terre, quoi. Je sais pas, hein, je veux pas dire de trucs en disant ouais, c'est un truc de l'enfance, mais en tout cas il y a une chose est sûre, c'est que autour de moi, j'ai pas été victime de ça, hein. Mais autour de moi, je connais beaucoup de personnes qui m'ont parlé de ça, qui m'ont dit, bah ouais, moi, ça me parle ta chanson, parce que quand j'étais enfant, c'était ça. Et je les regarde avec un peu d'incompréhension parce qu'ils sont devenus des adultes combatifs, costauds, de qui je pouvais pas imaginer quand ils étaient enfants et ils ont été maltraités, quoi. Il y en a qui vont s'en sortir très bien, là, d'autres qui s'en sortiront pas. Mais je pense qu'il y a un vrai passage après à l'âge adulte qui peut être quand même salvateur.
Parce qu'il y a ce côté un peu du rire aux larmes. C'est assez connu hein, que quand on va voir un concert de Juliette, il y aura des moments de tendresse, il y a des moments de rire, des moments dramatiques. Cette chanson, Le Seigneur des Mouches, est assez dramatique. Et puis, pas longtemps après, on écoute la chanson sur le poivron, donc manifestement un voilà. Légume que vous détestez.
Et, totalement.
Alors, vous avez pris bien 4 minutes pour nous dire à quel point c'est pas bon. Alors, j'en ai parlé un petit peu avec toutes les personnes de la radio, puis on a essayé de trouver... 3 autres aliments qui mériteraient une chanson. Alors, on va vous les dire et vous dites si, effectivement, il y aurait de l'inspiration. Les choux de Bruxelles.
Oh, j'adore ça.
Ah ouais, donc vous ne pourriez pas faire une chanson que ce n'est pas bon.
Alors, ah ouais, je ne pourrais pas dire que ce n'est pas bon, mais parce que... Ou alors, il faudrait faire une chanson en disant les choux de Bruxelles, c'est délicieux, à condition qu'ils soient frais et bien cuisinés. Parce qu'en réalité, ce qu'on n'aime pas, c'est les choux de Bruxelles en conserve de la cantine.
Ah, c'est des traumatismes d'enfance.
Et c'est vrai que c'est pas bon. Bah oui, c'est des traumatismes d'enfance. C'est pas bon, ça a un goût exécrable et c'est en général tout mou, etc. Alors que des choux de Bruxelles bien préparés, frais, de saison, etc., c'est délicieux. Mais bon, voilà.
Alors là, on a deux sujets très clivants, la coriandre et la pizza hawaïenne.
Alors, la coriandre, on va commencer par la coriandre. Est-ce que vous savez que le problème de la coriandre, c'est un problème génétique ?
Ouais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas manger ça du tout, quoi. Si on l'a ça, c'est impossible.
Et voilà, absolument. Il y a des gens qui détestent la coriandre et c'est un problème génétique. Voilà, c'est un truc, on a un gène de la détestation de la coriandre et on ne peut rien y faire. Donc ça, c'est pas on n'aime pas ou on peut s'habituer. Ou... Il se trouve que mon père, par exemple, détestait la coriandre, mais moi, j'adore ça. Donc on pourrait faire une chanson sur la transmission générationnelle de la coriandre.
Oui, ça pourrait être intéressant, ouais. Et la fameuse pizza hawaïenne, alors celle-là, c'est celle qui divise le
alors,
plus.
Alors, la pizza hawaïenne, c'est un truc un petit peu... D'abord, c'est historiquement, c'est une pizza américaine, quoi. C'est-à-dire, c'est un truc qui a été inventé aux États-Unis au moment où ils se sont saisis de la pizza italienne pour en faire un plat particulièrement américanisé. D'ailleurs, même les pizzas bourrées de fromage fondant dans la croûte.
Ah, il n'y a pas en Italie, ça.
Ça n'a pas de sens. Ouais, ça n'a pas de sens, voilà. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est-à-dire que est-ce qu'un plat doit rester dans sa tradition et puis surtout on n'y touche pas ? Ou est-ce qu'on a le droit, à partir de là, d'inventer des choses ? Est-ce qu'il ne faut pas l'appeler autrement que pizza, peut-être, tarte à la tomate et à l'ananas, j'en sais rien. Mais effectivement, j'ai rien contre. Par contre, à titre personnel, je trouve ça particulièrement dégueulasse.
Très bien. Si une fois vous avez...
Si vous faites une pizza hawaïenne avec quelques poivrons, alors là, je ne vous parle plus.